Bonjour, nous allons faire une lecture dans Jean chapitre 2 et verset 19. C'est Jésus qui parle et qui dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Ça, c'est des paroles de foi. Jésus, bien sûr, parlait de son corps en disant que si on le détruisait, si les gens le tuaient, eh bien il le reconstruirait en trois jours, c'est-à-dire il mettrait trois jours et il ressusciterait. Mais je méditais sur ce texte, tout en pensant à ce qui nous arrive ici, à la communauté, en ce moment, et j'ai eu quelques pensées que je voudrais partager avec vous, qui m'aimez et qui croyez dans mon ministère. Ce qui s'est passé depuis quelques mois ici peut mettre fin à certaines choses. Mais il y a une chose qui ne prendra jamais fin. C'est tout ce que nous avons appris dans ce lieu. Cette connaissance révélée, rétablie par le don du Saint-Esprit, n'aura pas la même destinée que les murs où cela a été reçu. Tout passe ici, mais il y a des choses qui sont éternelles. Ce ne sont pas des doctrines qui demeureront, c'est la vie, c'est la vie. Car la connaissance de la parole de Dieu rétablie, c'est une meilleure connaissance de Jésus-Christ, de la parole de Jésus-Christ qui est la vie. La doctrine ne peut pas être la vérité absolue sur la vie et sur la mort. Par contre, la connaissance qui se dégage de la doctrine, de l'ensemble des textes qui parlent des mêmes choses et qui sont mis ensemble, l'ensemble, n'est-ce pas, la connaissance qui se dégage de la doctrine nous aide à vivre et à affronter les défis de notre existence au quotidien, jour après jour, et ceci a des répercussions partout. Partout où Jésus règne, et je vous rappelle que Jésus règne partout, aussi bien dans les cieux que sur la terre, que sous la terre. Et la connaissance qui demeurera, elle demeurera en ceux qui auront été les bénéficiaires de cette connaissance, c'est-à-dire de ceux qui l'ont reçue, qui ont aimé la lumière. L'érudition, ce qu'on trouve dans les livres, en général, ça ne sert pas à grand-chose, sinon à alimenter des discussions de salon et même des fois des chicanes. Certains y croient, certains n'y croient pas, n'est-ce pas? Certains s'élèvent contre ceux qui y croient, et puis voilà, l'érudition. Mais ça ne va pas servir qu'à cela, l'érudition. Elle doit alimenter la sagesse qui réside dans le cœur des vrais enfants de Dieu. Voilà ce qu'elle doit faire, l'érudition. Et cette sagesse-là, c'est une bénédiction. Et la Bible nous dit que la bénédiction, c'est elle qui enrichit dans tous les domaines. Ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs, a enrichi le royaume de Dieu. Et comme nous sommes dans le royaume de Dieu, nous en avons eu une part. Parce que nous avons placé notre foi dans cette connaissance révélée, rétablie, qui nous a permis de placer un véritable, véritablement sauvé des âmes et engrangé des âmes dans le royaume des cieux grâce à cette connaissance. Pensez-y, plus de 70 millions de personnes baptisé. Vous voyez, la connaissance a augmenté. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera, mais qu'en même temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et je me demandais, mais pourquoi ces deux choses doivent-elles aller ensemble? Pourquoi, quand la connaissance augmente, la charité refroidit? Ben, c'est tout simple, c'est parce qu'il y en a qui refusent cette connaissance. Ils se mettent à haïr cette connaissance, et à haïr ceux qui apportent cette connaissance, et à lui trouver tous les défauts. On a fait ça avec Luther, on a fait ça avec Branham, on a fait ça avec Jésus, c'est des cycles, c'est comme ça se répète tout le temps. Alors, pourquoi ces deux choses doivent-elles aller ensemble la connaissance qui augmente et hop, la charité qui refroidit. C'est simple. C'est que certains ont pris des notes de ce que je disais. D'autres se sont souvenus des mots que je disais. Et puis d'autres, en fait, il n'y a qu'eux qui sont des gagnants. Parce que ce sont ceux qui sont partis avec ces paroles pour faire circuler ce qu'ils ont entendu. Et alors ils recevront, et ces gens-là reçoivent le véritable amour. J'explique. Pourquoi l'évangéliste évangélise-t-il ? Parce qu'il aime Dieu et il aime les gens. Et pourquoi est-ce qu'il ne se lasse pas d'évangéliser encore et encore et encore? Parce que l'évangéliste, il n'a qu'un message. Jésus sauve, il revient tout le temps là-dessus, il reparle tout le temps de là. Pourquoi il ne se lasse pas d'évangéliser encore et encore? C'est parce que en donnant aux autres ce qu'il a reçu, c'est-à-dire ce qu'il a accepté, qui lui était donné, Dieu le remplit d'un amour encore plus grand et plus vrai, plus viril, pas de cette espèce d'amour improductif, stérile, dégoulinant de bons sentiments. Non, d'un amour qui construit quelque chose. Alors oui, détruisez le temporel, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal demeurera éternellement. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu a vu la passion des âmes qui était la nôtre. Comment nous avons sauvé des âmes, comment nous avons construit des églises là-bas en Afrique avec Nicolas, comment nous avons fait ça, comment nous avons aidé matériellement des gens, comment nous avons nourri des gens spirituellement, mais aussi matériellement, les nourrissant avec de la nourriture terrestre, comment tout par amour, nous avons fait ça par amour et nous continuerons et nous continuons toujours à le faire. Dieu nous a aidés à gagner des âmes mortes dans leurs péchés et qui sont passées de la mort à la vie. Dieu a vu, alors il nous a aidés, alors en plus il nous a confié l'œuvre du salut des morts. Ah, alors là c'est une connaissance, n'est-ce pas? Ça passe ou ça casse. Alors comme personne ne sait ce que sera demain, ce que demain nous réserve, eh bien nous nous appliquons, mes frères et sœurs, à vivre aujourd'hui. Parce que le Maître, Jésus nous l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais s'il dit ça, ça veut dire aussi que à chaque jour suffit son bonheur. Il faut penser juste. Et je suis là pour vous aider à penser juste. Que vous ne soyez pas découragé par ce qui arrive en ce moment. Ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas à le transmettre à notre génération. N'intéresse personne, sauf les gens qui aiment les cancanages, et voilà. Nous parlons de ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous avons été envoyés. Nous parlons aussi des difficultés qu'il nous faut affronter, n'est-ce pas, à cause de cette parole, c'est-à-dire à cause de Jésus. Et ça, c'est intéressant. Comment, grâce à nos difficultés d'aujourd'hui, nous allons être plus efficaces demain? Ça, c'est intéressant. Voilà pourquoi nous nous entretenons entre nous. Pour nous dire, voilà, les difficultés d'aujourd'hui, c'est à cause de la parole, eh bien, à cause de Jésus que nous avons ces difficultés. Alors maintenant, comment on fait, n'est-ce pas, pour que ces difficultés se transforment et que demain nous soyons plus efficaces? Comment on fait? Vous voyez, en ce moment, je faisais visiter le parc tout à l'heure, et vraiment, ça, c'est triste. C'est triste de voir le parc comme il est maintenant. C'est toutes ces feuilles qui sont tombées par terre, et puis, voilà, la boue, avec la pluie, tout ça, le froid. Mais est-ce que c'est une défaite, toutes ces feuilles qui sont tombées par terre? Non! C'est le cycle de la vie! Une feuille tombe de l'arbre. Alors certains pourraient penser qu'elle va mourir ou qu'elle est déjà morte. Mais non, elle n'est pas loin de l'arbre. Elle ne tombe jamais très très loin de l'arbre. Et grâce à elle, l'arbre va pouvoir continuer à vivre. Ça nourrit la terre et c'est de nouveau. Et l'arbre continue à vivre. Rien ne se perd. Rien n'est un échec. Enfin, quand même, faut pas exagérer. Il y a quand même des échecs. Je vais vous décrire ce que c'est qu'un échec. L'échec, c'est ce qui empêche la vie de lutter. C'est-à-dire, c'est la mort. L'échec, c'est ce qui nous interdit de rêver. quand on ne peut plus rêver. La devise de l'échec, c'est « ne désire rien, comme ça tu n'auras pas à souffrir ». Ah, t'engage pas, comme ça tu n'auras pas trop de difficultés. Ça, c'est l'échec. Michou et moi, pendant des années, on a construit la communauté avec l'aide de frères et sœurs consacrés. Nous avons... Bon, une personne a été parfaite au milieu de nous, mais qui l'est, hein? Qui? Et en ce moment, notre vie, elle est un peu comme le parc, avec des feuilles qui sont tombées, mais ça n'est pas un échec. Vous savez, tout ce temps qu'on a vécu, durant lequel on a travaillé, on a ri, on a pleuré, on a mangé, le mercredi soir c'était super, c'est toujours super, tout ça c'était une préparation. Moi, je vois ça comme une préparation. Nous étions un peu comme un homme qui se prépare pendant des années pour escalader le Cervin. Vous connaissez peut-être pas le Cervin. Le Cervin, c'est la plus haute montagne de Suisse, de mon pays. C'est une très belle montagne, magnifique. Eh ben, c'est comme un homme, n'est-ce pas, qui s'entraîne pendant toute sa vie, pendant des années, pour pouvoir grimper là-haut sur le Cervin. Et puis voilà que, eh ben, en ce moment, frères et sœurs, nous sommes arrivés juste devant cette montagne. En fait, on s'est entraîné. Ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est un entraînement. Et puis, nous sommes devant cette montagne. Elle est immense. Oh là 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 là, oui, d'accord, j'avais vu des photos, mais dis donc, quand on la voit en vrai, c'est immense, hein. Notre avenir, l'effort, les efforts qu'on va devoir faire pour arriver jusqu'en haut. Et puis, en plus, il fait un sale temps. Les vents sont contraires. Il y en a qui sont là pour nous décourager. Alors, vous savez, Jésus nous a appris qu'on peut parler aux montagnes. Il nous a dit qu'on pouvait leur dire de se déplacer. Moi, je veux pas dire aux servants de se déplacer. Non. Je me suis entraîné pour grimper là-haut. Alors, je veux pas lui dire de s'en aller encore plus loin. Non, non. Je parle à la montagne et je dis, hey, montagne, tu crois que je vais me décourager? Parce que t'es immense? Tu crois que je vais me décourager parce qu'il fait un sale temps? Hey, montagne, je te le dis, le temps est en train de changer là. Le soleil va apparaître, c'est obligatoire. Et je vais grimper sur ton sommet, et en attendant, montagne, là, hé, montagne, reste là. Vous voyez? Tu vois, mon ami, l'homme et la femme de Dieu n'abandonnent jamais. Il dit et il fait. Il prophétise et ça s'accomplit. Un jour, j'ai dit, j'achèterai un château. Tout le monde a dit, t'es fou, t'as la folie des grandeurs. Je l'ai fait. Et ça fait 25 ans qu'on est dedans. Il y a trois sortes de chrétiens. Il y a trois sortes de chrétiens. Il y a les lâches, qui commencent jamais rien. Il y a les faibles, qui vont jamais jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Et puis il y a les gagnants, qui sont, ils s'accrochent, ils n'abandonnent pas. Jamais ils abandonnent. Alors, qui es-tu? Bon, alors, je peux t'entendre de là, tu es en train de dire, oui, mais toi, Michel Janton, t'es qui, toi, alors, dans les trois, là, t'es qui? C'est pas parce que nous sommes dans le cycle de l'hiver, ce n'est pas parce que nous sommes dans un sale temps en ce moment, c'est pas parce qu'il y a des feuilles qui tombent autour de nous que je vais lâcher. Je sais ce que Dieu m'a donné. Et je continuerai à faire avec ce que Dieu m'a donné. Et si un proche me lâche, c'est parce que ce n'était qu'un lâche qui était proche. Ce que font les autres, ça ne me change pas moi. 1000 feuilles tombent à ma droite, 10 000 feuilles tombent à ma gauche, moi je ne suis pas atteint. Hein. Psaume 91, verset 7, revu et corrigé par Michel Janton. Et comme rien ne se perd, eh ben je gagnerai encore grâce à cette affaire. Alléluia, comme disait Raphaël. Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Alléluia, ah là, il est en colère. Alléluia. Voilà comment tu dois penser, mon frère, ma sœur. Si tu marches avec Dieu, tu peux penser comme ça. Si tu as été appelé selon son dessein, tu peux penser comme ça. Sinon, c'est la méthode Coué. Ça marche un peu, mais pas longtemps. Mais si tu as été appelé selon son dessein, alors c'est comme ça que tu dois penser. Jésus nous a enseigné qu'on peut déplacer des montagnes, et en son nom, moi je t'enseigne que tu peux aussi les gravir. Rien n'est impossible. Michel, non, on va pas pouvoir. Bon, c'est vrai, on voulait, mais on peut pas, c'est trop cher. Puis après, non, puis il va y avoir, oh non, on peut pas, non, gna 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 gna. Ben, si je vous avais enseigné comme ça il y a 25-26 ans, on habiterait encore à Sarcelles, hein. Mais gloire à Dieu, au Péreux, quand on était là dans ma petite maison de il y avait deux chambres, une salle à manger, une cuisine, et puis chaque chambre faisait 3 mètres sur 3, c'était vraiment une maison de poupée, hein. Des feuilles sont tombées, ça nous a permis d'avoir Sarcelles. À Sarcelles, c'est déjà un peu plus grand, il y a, je crois, 11 pièces, des feuilles sont tombées, ça nous a permis d'avoir le château. C'est normal, c'est le cycle naturel. C'est pas ma défaite, ce n'est pas la défaite de Dieu, parce que il n'y a ni victoire ni défaite dans le cycle de la nature, il y a tout simplement du mouvement. C'est un mouvement, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, il faut simplement le comprendre. Mais ça aussi, je vous l'ai déjà enseigné il y a longtemps. Certains ont pris des notes, d'autres se sont souvenus des mots. Mais vous qui m'aimez, vous qui aimez le ministère que Jésus m'a confié, vous irez partout pour faire circuler ce que je vous avais entendu. Soyez donc bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus de fortifier mes frères et sœurs qui sont dans ce ministère et tous ceux qui sont sur Révélation Bible et qui nous écoutent et qui prient pour nous avec foi. Merci Seigneur Jésus de ce que ta gloire va se manifester. Nous allons être émerveillés. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu prépares pour nous. Que ton nom soit glorifié, mon Jésus. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.